Ce matin, on retrouve Thomas le sceptique. C'est vraiment très ironique, ce passage-là. On arrive à la toute fin de l'Évangile de Jean. On retrouve Thomas qui est sceptique. Et Thomas, qui est sceptique, va nous donner peut-être la plus belle déclaration de foi de toute la Bible. Si ce n'est pas la plus belle, c'est une des plus belles. Alors, on va voir de la bouche de celui qui ne croyait pas, qui était sceptique, qui doutait, une des plus belles déclarations de foi. Je te dis ça parce qu'il y a des gens autour de toi, dans ta famille, des gens que tu aimes, qui à ce moment-ci sont peut-être sceptiques, peut-être qu'ils ont des doutes, mais continue à prier, continue à croire en Jésus-Christ s'il t'a donné déjà la foi à toi. Continue à prier parce que tu pourrais être surpris et tu pourrais voir ces gens-là qui sont actuellement dans le doute, faire un jour une des plus belles déclarations de foi, comme on le voit ici avec Thomas. C'est vraiment drôle. Je viens juste de compléter un roman de Michael Connelly. C'est un roman policier. Et puis, lorsqu'on arrive à la fin du roman complètement, le héros du roman découvre qui était en fait le criminel, le meurtrier. Puis lorsqu'il le réalise, je veux dire, c'est quelqu'un qu'il côtoyait constamment. Puis là, tout d'un coup, il le voit sous son vrai jour. Bien, Jésus n'est pas un meurtrier, c'est un sauveur. C'est l'opposé parfait. Mais ce qu'on a ici, c'est un peu le même genre de réaction où, on dirait pour la première fois, Thomas va vraiment voir Jésus sous son vrai jour. Lorsqu'il va le voir ressuscité, il y a plein d'aspects de la personne de Christ, de sa grandeur, de sa majesté, je dirais infinie, qui vont lui apparaître de manière évidente et ça va l'amener à voir cette déclaration de foi-là. Le personnage est révélé dans toute sa splendeur aux yeux de Thomas, et on a une belle déclaration de foi. On va voir ça ensemble. Allons dans la prière, puis on va écouter la lecture des Saintes Écritures. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es magnifique. Non seulement tu es beau, tu es infiniment beau, Seigneur. Tu es parfait. Thomas va jusqu'à nous dire dans ce passage que tu es Dieu. Seigneur, ce n'est pas facile à croire. Si nous croyons aujourd'hui, nous avons tous été un jour sceptiques et tu es venu te manifester à nous, Seigneur. Tu es venu nous donner la foi. Je te prie de parler à nos cœurs ce matin. Je te prie, Seigneur, de confondre dans leur âme, dans l'intimité de leur être, quelques personnes qui vont entendre ce message. Donne-leur de te voir, Jésus, comme Thomas t'a vu ce jour-là, Seigneur. Et Seigneur, à nous qui avons déjà la foi, viens nous aider à prendre conscience de ce qui se passe ici pour que dans notre marche, dans notre vie chrétienne, Seigneur, nous vivions comme Thomas s'est mis à vivre après avoir fait cette prise de conscience extraordinaire, mon Seigneur et mon Dieu. Viens nous parler ce matin par la puissance de ton Esprit Saint, là où nous sommes, dans nos situations, nos défis, Seigneur, puisses-tu être glorieux à nos yeux. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen.
Deux passages. Jean 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Deuxième passage, Jean 20, 24 à 31. Thomas, appelé Didyme, L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté ». Écoutez, la résurrection, c'est un miracle. C'est un miracle en soi et j'oserais dire que c'est un miracle extraordinairement difficile à croire. Thomas, qui avait vu Jésus faire plein de miracles, je disais, Thomas avait toutes les raisons d'avoir confiance lorsque les autres disciples lui ont dit « Jésus est ressuscité ». Je veux dire, il a vu marcher sur les eaux, il a vu ressusciter des morts. Thomas était témoin probablement de centaines, voire de milliers de miracles que Jésus a fait. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait encore surprendre Thomas de la part de Jésus? Alors, si les disciples qui étaient avec lui, qui ont suivi Jésus, qui connaissaient ses enseignements, qui ont été témoins eux autres aussi de tellement de miracles de la part de Jésus, disent à Thomas, il est ressuscité. Thomas aurait pu croire. Mais c'est un miracle tellement incroyable que c'est difficile à croire. C'est difficile à croire. Thomas se présente comme le disciple sceptique qui dit, non, mais là, c'est too much. OK, il marche sur des eaux, il ressuscite des morts, mais il se ressuscite lui-même. Lui-même, il sort du tombeau. C'est too much. Puis là, Thomas va dire, ben, écoute, il faut que je le touche, il faut que je le voie, il faut que je le saisisse pour croire. Pour beaucoup de personnes, Jésus est super intéressant. Pour plein de gens, les enseignements de Jésus sont pertinents, utiles, intéressants, intemporels, supérieurs à toutes sortes de philosophies. C'est l'essence de la beauté, d'aimer son prochain, de se donner, même de mourir sur une croix, de sacrifier. Mais quand vient le temps de croire à la résurrection de Jésus, pour plusieurs, c'est ça leur pierre d'achoppement, c'est d'aller jusqu'à croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Bien, ce que je vous dis ce matin, ce que Jean nous dit dans son évangile, c'est que si la résurrection, c'est un miracle, croire dans la résurrection, c'est un autre miracle. Et c'est pour ça qu'on aime dire, les chrétiens, que lorsqu'une personne vient à la foi en Jésus, lorsqu'elle expérimente cette nouvelle naissance, pour le mettre dans le langage de Jésus, il y a un miracle qui s'est opéré là, pour croire vraiment. Et Jésus va parler de ce miracle-là, de la foi sans voir. Parce que Thomas a cru en voyant, mais Jésus va dire « Heureux, béni soit celui qui croit sans avoir vu ». Et Dieu a reproduit ce miracle-là de la foi des millions et des millions et des millions de fois. Pensez-y un instant, il y a plus de gens, certainement, qui ont cru en Jésus-Christ, en sa résurrection, sans l'avoir vu, que Jésus a lui-même fait de miracles. Et donc, le miracle de la foi, de croire sans voir, a été reproduit des millions de fois et ça va continuer comme ça jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais il faut l'admettre, c'est pas quelque chose d'évident de croire simplement par la foi sans voir Jésus. Et ce que je vous dis ce matin, c'est que ce témoignage-là de Thomas nous a été donné. Jean a pris le temps de l'écrire dans son évangile, de nous mettre ça par écrit, afin qu'on puisse avoir la même foi que Thomas. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'évangile de Jean a été écrit pour que tu vois Jésus comme Thomas. Que tu le vois sans le voir, que tu aies la même perspective, la même compréhension que Thomas, pour qu'il soit ton Seigneur et ton Dieu. Je répète ça. L'évangile de Jean a été écrit pour que tu vois Jésus comme Thomas l'a vu, pour qu'il soit ton Seigneur et ton Dieu. Premièrement, la plus belle des déclarations de foi. Thomas lui répondit, on ne sait même pas s'il a touché finalement. Je veux dire, Jésus est là, il dit « Vas-y, touche-moi ». Puis là, on a une exclamation incroyable de la part de Thomas. On ne sait même pas si finalement il a touché à Jésus. Ça se peut que juste en le voyant, tout s'est arrêté là, puis c'est assez, je crois. Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Certains d'entre vous, vous pouvez vous rappeler la déclaration de foi de Pierre, l'apôtre Pierre dans l'évangile de Matthieu. À la question que Jésus posait à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Il avait posé avant, « Qu'est-ce que la foule dit que je suis? » Pierre avait répondu, dans Matthieu 16-17, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est quand même une belle déclaration de foi. Pierre réalise que Jésus est le Christ, ça veut dire qu'il est le Sauveur. C'est lui qui est le sauveur des hommes que les Juifs attendaient tellement. C'est ça que ça veut dire, un Christ, c'est un Messie, c'est un sauveur. Donc, Pierre avait déjà fait une déclaration de foi vraiment intéressante. Maintenant, quand tu la mets à côté de la déclaration de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et puis, on va voir ensemble ce que ça veut dire, cette déclaration-là. Mais quelle déclaration extraordinaire! Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le terme « Seigneur », c'était pas un terme si rare que ça à l'époque. Tu pouvais t'en servir avec quelqu'un qui était vraiment en position d'autorité au-dessus de toi. Le mot grec qui est là veut dire, c'est « kurios ». Et ce que ça veut dire, c'est un chef, un leader. Et donc, tu vas appeler « Seigneur » quelqu'un qui est un chef, un leader au-dessus de toi, mais quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'autorité sur toi. Et c'était utilisé aussi parfois pour s'adresser à Jésus lui-même. Les disciples s'en servaient. Mais à travers tout le reste du Nouveau Testament, on voit combien de fois c'est utilisé aussi pour parler de Dieu lui-même. Et donc, Thomas est en train de dire, lorsqu'il voit Jésus ressuscité, est-ce qu'il a touché, il n'a pas touché, je ne sais pas, mais lorsqu'il voit Jésus ressuscité, il dit, OK, c'est vrai, c'est certain, c'est toi. C'est vrai que tu es ressuscité. C'est pas une histoire, j'y crois, là. C'est toi, c'est mon Seigneur qui est là. Maintenant, ça prend certainement une autre dimension. C'est le Seigneur de la vie, c'est le Seigneur de la mort, c'est celui, on savait déjà qu'il prenait autorité sur la mort, il avait ressuscité Lazare, on en a parlé la semaine dernière. Mais attends un peu là, il n'a pas juste ressuscité Lazare, lui-même est ressuscité. Et là Jésus, et là Thomas est en train de dire, mon Seigneur, celui qui a autorité sur ma vie, c'est toi. Essayez juste de voir toute la dimension que ça prend dans son esprit. Il a vu Jésus faire des miracles, il a écouté ses enseignements, puis Jésus meurt sur la croix. Les disciples sont complètement déboutés, complètement découragés. Tous leurs rêves sont abattus. Marie arrive, les femmes arrivent, témoignent que Jésus est ressuscité. D'autres disciples témoignent de ça. Thomas est confus. Il dit, je sais qu'il est extraordinaire, mais non, je pense qu'il va falloir que je le voie pour le croire. Maintenant, imaginez ce qui se passe dans son esprit lorsqu'il voit Jésus ressuscité et qu'il s'exclame, « Mon Seigneur, mon Seigneur. » Et à quelque part, Jésus va prendre, puis Jean va prendre cette déclaration de foi de Thomas pour nous dire, « C'est à ça que tu es appelé. » Imaginez un instant la proportion que ce mot-là, « Seigneur », vient prendre dans le cœur de Thomas pour la suite de son histoire à lui. Thomas a reconnu en Jésus son chef, son leader, son Seigneur. Et il a reconnu en lui son Seigneur, non seulement parce qu'il enseignait et faisait des miracles, mais parce que la mort n'a pas pu le retenir. C'est ce Seigneur-là que Thomas va suivre jusqu'à la fin de ses jours. Mais non seulement il dit « mon Seigneur », il va plus loin encore. Et c'est pour ça que je dis, c'est probablement, à mon avis, la plus belle déclaration de foi qu'on a dans tout le Nouveau Testament. « Mon Dieu ». Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » J'ai fait lire Jean 1, 1 à 14. Parce que voyez-vous, c'est le début de l'Évangile de Jean. Puis là, on arrive avec Thomas à la fin de l'Évangile de Jean. La semaine dernière, je parlais d'arc narratif. Et ça, c'en est tout un arc. On commence avec Jean 1. Jean qui écrit son évangile des années plus tard, quand le Saint-Esprit l'a aidé à comprendre un paquet d'affaires, les disciples ont tout mis ensemble, ils ont dit « Wow, OK, on comprend vraiment qui est Jésus. » Puis là, il écrit son introduction à son évangile en commençant « Au commencement, Dieu créa. » Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, « Et la parole a été faite chair. » Puis là, j'arrive à la toute fin de l'Évangile de Jean et j'ai un être humain qui voit Jésus ressuscité et dans le fond, il est en train de dire, « Ah oui, vraiment, ah oui, vraiment, tu es Dieu. » Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, elle est devenue un être humain. Puis on trouve Thomas à la fin complètement puis qui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas est celui qui déclare le plus clairement dans tout l'Évangile de Jean qui est Jésus-Christ. C'est dans la bouche de Thomas que j'ai la juste perspective de qui est Jésus. Je veux juste vous rappeler quelque chose d'autre dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 5, verset 23, Jésus, c'est dans la bouche de Jésus qu'on lit ça, qu'on entend ça, « Afin que tous honorent le Fils en parlant de lui-même, comme ils honorent le Père. » Mais le Père, c'est qui? C'est Dieu le Père. Comment on honore Dieu le Père? On l'appelle Dieu. On reconnaît qu'il n'est pas seulement un être humain, mais qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de tous. Qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas admettre la perspective, admettons, que les témoins de Jéhovah ont de Jésus. Ils sont obligés de faire une gymnastique mentale avec ça pour dire, « OK, Thomas était là, Jésus arrive, il est vraiment ressuscité, mon Seigneur et mon Dieu! » Ou à la Québécoise, « Mon Dieu! » Non, c'est une déclaration de foi qu'il est en train de faire. Thomas voit Jésus le plus clairement, avec la plus juste perspective, celle de son infinité, et il déclare qu'il est Dieu. Et Jésus avait dit, « Il va falloir que vous honoriez le Fils comme vous honorez le Père. » Voyez-vous, dans la personne de Jésus-Christ, j'ai Dieu le Fils. Ce n'est pas toute la divinité. La Bible nous révèle le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais j'ai ici Dieu le Fils. Et pour Thomas, pour la première fois, il saisit ce que ça veut dire vraiment, que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu comme toi et moi, lorsqu'on vient à la foi en Jésus-Christ, on est Fils de Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu dans le sens qu'il est une créature de Dieu. Non, il est le Fils de Dieu dans le sens qu'il a été engendré par le Père éternellement et il participe entièrement à la divinité. Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. Et ça, c'est la révélation que Thomas reçoit. C'est la plus belle des déclarations de foi qui va bouleverser ta vie quand tu réalises que Jésus ne peut pas être mis à côté des autres prophètes ou des autres religions. Jésus ne peut pas être comparé avec les philosophies de ce monde. Quand tu prends la perspective qu'il s'agit de Dieu, il est Dieu. C'est l'être le plus magnifique qui existe dans l'univers. C'est le Dieu fait homme. Il est devenu un être humain, il est entièrement un homme. On a pu même le tuer sur la croix. Son humanité a été prouvée à la croix et sa divinité l'est dans sa résurrection. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts et la mort n'a pas pu le retenir. C'est la plus belle des déclarations de foi. Et ça m'amène à mon deuxième point. Croire en Jésus, c'est voir Jésus comme Thomas. Je veux juste vous faire observer que si Jésus avait eu un petit malaise en disant « Attends un peu là, tu vas un petit peu loin, il y a des choses que tu ne comprends pas. Dieu c'est Dieu, moi je ne suis pas Dieu. Je ne voudrais pas qu'on parte sur une pleure de banane puis que là, des chrétiens pendant des milliers d'années commencent à dire que je suis Dieu. » C'était le moment là, de faire un correctif, n'est-ce pas? Jean 20, 27 à 29, puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas cru. » Je veux dire, le seul reproche, s'il y en a un que Jésus lui fait, ce n'est pas de commencer à dire quelque chose de faux sur lui, c'est de dire, écoute, je suis content pour toi, là, tu crois, mais bénis sont ceux qui vont croire sans voir. Et si Jésus n'avait pas été en accord avec cette déclaration de foi de Thomas, il l'aurait arrêté là. Parce que Jésus faisait constamment ça. Lorsqu'on disait des choses fausses sur lui, ça pouvait même être un de ses disciples à qui il disait « Arrière de moi, Satan! » Je dis, Jésus l'aurait arrêté. Mais non, on est appelé à honorer le Fils comme on honore le Père. Et donc, Jésus est en train de bénir cette déclaration de foi-là. Il dit « Tu as cru. » Croire en Jésus, c'est voir Jésus comme Thomas le voyait. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Puis Jean poursuit. Verset 30-31, « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean dit, on aurait pu vous raconter un paquet d'autres miracles de Jésus si vous saviez tout ce qu'il a fait. Mais ce n'était pas nécessaire. Tout ce qui est ici dans ce livre-là vise à ce que tu crois en Jésus-Christ. Que tu crois qu'il est le Christ le Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. Et Jean, encore une fois, ne corrige pas du tout la déclaration de Thomas. Au contraire, tout de suite après, le narrateur embarque et dit « Voilà pourquoi on écrit ces choses. J'ai raconté la déclaration de foi de Thomas pour que vous puissiez croire à votre tour et réaliser qu'est-ce que ça veut dire de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et Thomas de s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus de dire, tu as cru, c'est bon. Heureux ceux qui croiront sans voir. Et Jean de dire, c'est pour ça qu'on a écrit ces choses-là, afin que vous puissiez croire. Si tu veux devenir chrétien, si tu veux vraiment connaître Jésus-Christ, il ne doit plus rester l'ombre, une parcelle de doute sur la divinité de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu dois le voir dans toute sa majesté, parce qu'une fois que tu réalises que c'est Dieu le Fils qui est venu sur la terre mourir sur la croix pour nos péchés en devenant un homme, tu peux commencer à voir la beauté de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas envoyé simplement un de ses anges. Dieu n'a pas envoyé même le plus grand de ses anges pour mourir sur la croix à ta place. Dieu a envoyé son propre Fils, Dieu est venu lui-même. Le Père a envoyé le Fils et le Fils d'un plein accord a dit, « Je vais devenir homme, je vais mourir sur la croix. » Et les hommes sauront, les êtres humains sauront combien nous les aimons. Parce que nous allons pourvoir, je vais pourvoir à leur salut. Si tu veux croire en Jésus-Christ, il ne doit plus rester la parcelle, la moindre parcelle de doute sur la divinité de Jésus-Christ. Autrement, ce qui va se passer, c'est que tu ne verras jamais la beauté de cette bonne nouvelle, de cet évangile de Jésus-Christ dans toute sa splendeur. Ça va toujours être obscurci par cette idée qu'il y a peut-être un être très grand qui aurait pu venir mourir sur la croix, mais Dieu ne l'aurait pas fait. Dieu ne serait pas venu sur la terre. Et celui qu'on chante le dimanche matin, et celui que je prie chaque matin de ma semaine, et celui que je suis tout au long de la semaine, c'est non seulement mon Sauveur, non seulement mon Seigneur, mais c'est mon Dieu. Et il faut que cette foi-là devienne la tienne. C'est très beau d'entendre Thomas dire « Mon Seigneur et mon Dieu », pas « Notre Seigneur et notre Dieu ». C'est sa foi à lui. Les disciples ont cru, les disciples ont vu, Thomas est sceptique. Ça devient une affaire personnelle entre Jésus et lui. Puis lorsque Jésus se révèle à lui, lorsque Jésus apparaît, cette foi-là devient personnelle. Mon Seigneur et mon Dieu. Vois-tu, la vie chrétienne, c'est une vie communautaire, mais le miracle de la conversion, de la foi, je parlais de ce miracle de croire, ce moment où Jésus devient mon Jésus, où le Seigneur Jésus-Christ devient mon Seigneur, où Dieu le Fils devient mon Dieu. Ça, c'est le miracle de la foi. Et ça, c'est intimement personnel. Il n'y a personne sur la terre qui peut te forcer à devenir chrétien. On n'y arrive pas. Je vous le dis tout de suite, tous les parents chrétiens essayent à quelque part de dire, écoute, je vais trouver la recette puis je vais faire des petits chrétiens. Ça ne fonctionne pas. Tu leur communiques tout l'Évangile, tu les enseignes, tu leur partages la foi. Il n'y a pas de recette de chaudron où tu peux faire mijoter tes enfants puis ils vont devenir chrétiens. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que croire en Jésus-Christ, c'est un miracle. Et c'est quelque chose, c'est une transaction de foi qui se passe entre toi et Dieu. La vie chrétienne est communautaire. On souffre, l'Église, actuellement, de ne pas pouvoir se réunir, chanter des louanges ensemble. On sent très bien que la vie chrétienne, c'est communautaire, mais la conversion, c'est personnel, c'est intime à soi. Et il y a un moment dans ton cheminement de foi où tu dois expérimenter comme Thomas, passer de cet endroit où tu dis, bien, c'est peut-être la foi de mon ami, c'est peut-être la foi de plein de gens à travers l'histoire de l'humanité, c'est peut-être une foi très intéressante, c'est peut-être la foi de mes parents, c'est peut-être la foi de mon épouse, de mon époux, mais il y a un moment où ça devient mon Seigneur et mon Dieu. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a personne qui peut te l'arracher. Cette foi-là, c'est la tienne. Tout le monde abandonnerait. Ce serait encore ta foi parce que c'est ton Seigneur et ton Dieu. Est-ce que comme Marie, on a vu Marie qui a entendu la voix de Jésus, hein? Elle n'avait pas reconnu, puis Jésus dit « Marie ». Là, Marie reconnaît la voix du Seigneur, elle se tourne, puis elle dit « Mon Seigneur, c'est toi ». Est-ce que tu as entendu la voix de Christ? Pas littéralement, dans ton cœur, dans ton âme, où tu dis ce Jésus-là très intéressant, fascinant, motivant, inspirant. Je réalise qu'il est plus que ça. Et cette mélodie-là commence à résonner dans ton cœur pour que tu puisses dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce que ça change tout. J'aime cette citation de C.S. Lewis qui dit, je vous la lis en anglais puis en français. When Christ died, he died for you individually, just as much as if you had been the only person in the world. Quand le Christ est mort, il est mort pour vous individuellement, tout autant que si vous aviez été la seule personne dans ce monde. Il y a un moment où tu dois ressentir dans ton âme que Christ est mort juste pour toi, que Christ est Dieu juste pour toi. Puis après ça, tu veux le partager à tout le monde parce que tu veux que ça devienne ton Seigneur et ton Dieu. Mais ça doit premièrement être le tien. Ça doit premièrement être ton Seigneur et ton Dieu. Parce qu'ensuite, ça va tout changer. Ça va tout changer. Si la déclaration qu'on trouve dans Jean 1, « Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu », n'était pas seulement avec Dieu, elle était Dieu. Cette parole a été faite chair et devenue Jésus de Nazareth. Si ça, c'est vrai, parce qu'on trouve la résolution de ça dans la déclaration de Thomas. Mais si Thomas dit vrai, et si Thomas dit vrai pour toi et moi, si c'est ton Seigneur et ton Dieu, ça veut dire que tout ce qui est entre Jean 1 et Jean 20 est vrai aussi. Si Jésus est Seigneur et s'il est Dieu, quand il dit de venir te reposer auprès de lui et de prendre son joug, son fardeau, parce que son fardeau est doux et léger. quand il te dit que si tu marches à sa suite, un fleuve d'eau vive va sortir de ton sein. Quand il te dit qu'il est la vérité et la vie. Quand il te dit d'aimer les frères comme lui a aimé en devenant serviteurs les uns des autres. En étant prêt à donner ta vie pour un frère, pour une sœur. Quand il te dit d'aller vers ton prochain et de l'aimer. Tout ça, c'est vrai. Si les seigneurs, c'est les dieux, si Jean 1 et Jean 20 sont vrais, tout ce qui est entre les deux est vrai. Si tu dis comme moi, mon Seigneur et mon Dieu, tout ce qui va entre ces pages-là est vrai, toute la Bible est vraie. Et j'entends ces paroles-là, je lis les Écritures pour entendre la parole de Dieu. Je lis les Écritures pour savoir ce que mon Seigneur attend de moi. Je veux marcher à sa suite. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que c'est une vérité pour toi? Est-ce que Dieu t'a donné de vivre ce miracle-là de la foi? Et ça veut dire que toutes les pages sont vraies. Je n'ai pas le loisir d'aller vers une page de la Bible ou de l'Évangile de Jean et dire, « Écoute, Seigneur, peut-être pas. Peut-être que c'est trop. Peut-être que je n'ai pas la foi. Je dois pardonner, je dois aimer, je dois servir, je dois mourir à moi-même comme toi, Seigneur. Puis c'est toi qui vas me donner la force. Écoute, je n'ai pas la force de croire en ça, Seigneur. Mais s'il est Dieu, s'il est Seigneur, et s'il est ton Dieu, s'il est ton Seigneur, toutes les pages de la Bible sont vraies. Apprends simplement à venir te reposer près de lui. À venir tout près de lui, te blottir tout près de lui, puis par la foi dire, « Seigneur, tu es mort sur la croix pour mes péchés, tu es ressuscité d'entre les morts, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Je crois dans ta parole, Seigneur. Je crois dans ta parole, Seigneur. » Et lorsqu'on prend le temps de venir chanter des louanges puis célébrer Dieu, prends le temps de réaliser qu'on n'est pas en train de célébrer la foi de nos ancêtres, on n'est pas en train de célébrer une religion quelconque, on n'est pas en train de célébrer simplement un homme qui est mort sur la croix pour nos péchés, on est en train de célébrer et d'adorer Dieu. Quand je prononce le nom de Jésus-Christ, je prononce le nom de Dieu le Fils, littéralement. Jésus prononce une bénédiction. La bénédiction de la foi, la bénédiction de la vie. Jésus dit au verset 28, c'est-à-dire Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », puis Jésus répond ensuite « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le mot « heureux » qui est là, c'est un mot qu'on retrouve plus souvent dans l'Évangile de Matthieu, dans le Sermon sur la montagne. « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui cherchent la paix, heureux ceux qui sont persécutés. » Le mot qui est là, c'est plus large que « heureux ». C'est un mot qui dit « celui qui a la faveur de Dieu ». On pourrait dire « béni », celui qui est aimé de Dieu. Et ce que Jésus est en train de dire ici, celui à qui est donnée la foi a la faveur de Dieu, parce que de croire, c'est un miracle. Jésus dit à Thomas, il dit, « Ok, t'as vu, t'as cru, je suis content pour toi. Écoute, tu nous as fait la plus belle déclaration de foi qui était possible. Génial, super. Maintenant, moi, je te dis que ceux qui croient sans m'avoir vu ont la faveur de Dieu. Ils sont bénis de Dieu. Ils sont heureux. Ils ont la faveur de Dieu parce que Dieu leur a donné la foi. » Et vous savez ce qui va se passer dans la suite des temps? Il y a des millions de personnes vont avoir la foi sans avoir vu Jésus. Des milliers de personnes vont mourir en déclarant cette profession de foi. Des vies sont bouleversées, des vies sont transformées, des sociétés même sont transformées. Parce que Dieu accorde cette bénédiction de la foi. Et si tu as reçu cette bénédiction, c'est une grâce. Chéris-le. Sans aucun mépris pour personne, Thomas a eu besoin de voir. Je veux dire, si un des disciples qui avait eu tous les miracles était sceptique, j'ai tellement de patience avec tous ceux qui sont sceptiques envers Jésus. Avec tous ceux qui ont un mépris pour ma foi et qui se disent, écoute, c'était intéressant jusqu'à temps que tu arrives là je décroche. Parce que cette foi qui m'a été donnée, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une faveur de Dieu qui fait que je suis heureux parce que Jésus est devenu mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus nous dit que si je crois, je vais avoir la vie. Regardez ce que Jean dit au verset 30-31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. De quelle vie est en train de parler? Il est en train de parler de la vie éternelle qui commence maintenant. C'est Jésus qui dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Si Dieu t'a donné cette bénédiction, cette faveur divine de croire en Jésus, c'est un miracle en soi. Et c'est un miracle qui s'est produit dans le cœur de millions de personnes, qui se produit encore aujourd'hui, dans les endroits les plus inattendus, dans les pays où c'est le plus difficile d'entendre l'Évangile. L'Évangile se répand, se répand, se répand. Et des gens qui viennent de milieux où les chrétiens sont persécutés vont vers des chrétiens pour dire « Comment est-ce que je fais pour croire? Parle-moi de ce Jésus-là à cause de cette vie. » Ce témoignage de grâce, ce fleuve d'eau vive qui coule de celui qui a eu la foi, cette lumière qui brille, cette grâce, cet amour, celle d'aimer mon prochain, d'être charitable, d'être en train de me donner bon temps, mauvais temps, aimer, détester, accueillir, persécuter. Les chrétiens continuent à être charitables, à aimer, à accueillir ceux qui sont rejetés, à leur partager cette foi-là. Ridiculisé, tu crois en Jésus, t'es malade, man. C'est une affaire pour tes arrière-grands-parents. Tu sais, dans ce temps-là, il était simple un peu. Puis pourtant, on continue à se convertir par millions et à partager la foi. Mais si Dieu t'a accordé ça, là, c'est une faveur de Dieu. Tu es béni, toi qui as la foi en Jésus. C'est une faveur que Dieu t'a accordé de croire. Simplement ça, ça devrait réjouir ton cœur tous les jours, de te lever en disant « Je crois. Je crois et je sais que c'est extraordinairement difficile de croire à quelque chose d'aussi incroyable. Mais j'ai la foi. On ne pourra pas me l'enlever. J'ai la foi. Je crois. » C'est la faveur que Dieu a déposée sur toi. Dieu t'a été favorable. Dieu t'a aimé. Dieu t'a béni. Et tu as cette joie-là de croire en Jésus-Christ. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'Évangile de Jean a été écrit pour que tu voies Jésus comme Thomas, comme ton Seigneur et ton Dieu. Je pensais, pendant que j'étais en train de préparer cet exposé, particulièrement aux jeunes gens. On vit une drôle d'époque où on dirait qu'on a de la difficulté à trouver des personnes vraiment inspirantes. Puis, comme tout semble en suspens, hein, on dirait que l'avenir est suspendu. Mais le cœur humain fonctionne en étant inspiré. Je vous parle de ce temps-ci, ça fait quelques fois que je le cite en exemple, là. Mais Elon Musk, Time Magazine, quand même, personne de l'année. Pourquoi est-ce qu'il est inspirant, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a d'inspirant? Parce qu'il l'est. Je parle avec des jeunes, souvent avec des jeunes hommes, puis il le trouve inspirant. Il est où il a été, où il va redevenir. Ça change à toutes les semaines, hein, parce que ces gens-là perdent 20 milliards de dollars à chaque semaine, ou ils en font 20 milliards de plus. L'homme le plus riche au monde. Qu'est-ce qu'il y a d'inspirant, ce gars-là? Dire un homme riche, ça peut inspirer, mais bon. Non, c'est qu'il est en train de nous parler d'une quête comme inatteignable. Il est en train de nous dire, moi, je suis peut-être le plus riche, mais je veux dire, je vais tout remettre ça dans des projets incroyables. On va faire des voitures électriques. Vous allez voir, on va rendre ça faisable, puis ça va devenir super populaire. Boum, il a réussi, il investit tout son argent là-dedans. Là, il dit, OK, je pense qu'il faut aller sur Mars. Il faut aller sur Mars. Je veux dire, est-ce qu'on peut avoir un projet plus flyé que de se rendre sur Mars? Je l'écoutais dernièrement, puis il dit, je ne sais pas s'il va y avoir une colonie établie là avant ma mort. J'espère que oui, mais c'est un objectif. Et il s'investit corps et âme là-dedans. Donc, lorsque tu l'entends parler, tu n'entends pas simplement l'homme le plus riche au monde, tu entends quelqu'un qui, à quelque part, est en train de chercher le bien de l'humanité puis investit toutes ses ressources dans ça. C'est un homme brillant, c'est un libre penseur. Il est inspirant. C'est vrai qu'il est inspirant. Écoutez, je m'adresse spécialement aux jeunes. Si vous avez besoin d'inspiration, Elon Musk, c'est bien. Jésus-Christ, ça c'est quelqu'un. Parce qu'il n'est pas simplement quelqu'un qui est en train d'essayer de nous amener peut-être un jour sur Mars. Il est quelqu'un qui va nous amener sur les nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est quelqu'un qui non seulement a donné ses richesses, mais sa vie sur la croix pour t'amener dans un projet de vie pour l'éternité. Ce n'est pas simplement l'homme le plus riche au monde. Non, il est Dieu. Il n'est pas qu'un homme. Il est Dieu. Et si Dieu t'accorde la grâce, cette bénédiction, cette faveur de Dieu, de croire, d'être heureux de voir Jésus comme il est, tu vas être inspiré comme Thomas l'a été ici. L'histoire de l'Église nous dit que Thomas est parti et est allé vers les Indes pour évangéliser. Puis il est parti et il a consacré sa vie parce qu'une chose maintenant était 100% claire pour lui. Jésus n'est pas qu'un homme. Jésus était son Seigneur et son Dieu. Et inspiré, il est allé annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Je sais que c'est difficile à croire, mais l'être humain a besoin de croire, et puis l'être humain va croire toutes sortes de choses difficiles à croire. Certains vont croire que tout cet univers-là mystérieux, où on essaye de fouiller les confins de la galaxie, de l'univers, pour trouver des planètes qui ressembleraient à la Terre, puis on ne trouve rien qui est même approche de ça. J'entendais encore Elon Musk qui disait « Ouais, des extraterrestres, je ne pense pas. Si l'univers est aussi vieux qu'on pense, on les aurait vus, ils se seraient manifestés. » Donc, il y en a qui croient dans les extraterrestres, il y en a qui croient qu'on vient d'un pur accident. Hein? Ce que je vous dis, c'est que tout ça, c'est très difficile à croire. Si vraiment tu veux regarder la nature autour de toi. Et c'est très difficile de croire en Jésus-Christ. La différence entre toutes ces fois-là, et la foi chrétienne, c'est que Dieu vient, parle à ton cœur et te donne la bénédiction de croire. Et ce que je te dis ce matin, c'est si tu as cru, annonce l'Évangile de Jean. Partage ça. Sois confiant que Dieu va accorder à des gens à qui tu annonces l'Évangile de croire sans voir. Il le fait depuis 2000 ans. Et il le fait pour des millions et des millions de personnes. Et il le fait encore partout dans le monde aujourd'hui. Et si tu es sceptique, si tu dis comme Thomas, « Si je le voyais, je croirais. » Je t'invite à lire l'Évangile de Jean attentivement, puis de mettre Dieu au défi, dans la prière, de te donner la foi en lui. On va prier. Seigneur Jésus, on est réunis ce matin pour t'adorer, pour te célébrer. Tu es merveilleux. Tu es littéralement merveilleux, Seigneur. Glorieux, majestueux. Seigneur, personne n'est comparable à toi. Aucun être dans l'univers ne te ressemble, Seigneur. N'est à ton image, ta grandeur, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te bénir parce que tu m'as donné la foi. Tu m'as donné de croire en toi, Seigneur. Seigneur, j'ai vu ta gloire comme Thomas a vu ta gloire parce que tu m'as donné cette foi de reconnaître que tu es Seigneur et Dieu. Seigneur Jésus, je veux t'adorer ce matin, te célébrer. On est assemblés pour chanter, Seigneur, notre foi en toi. Cette majesté que nous avons découvert en toi, ta beauté, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie pour ceux qui cherchent, qui cheminent, qui étudient, qui lisent la Bible, qui écoutent ces messages. Fais-leur entendre ta voix. Qu'ils entendent, Seigneur, ta voix dans leur cœur, dans leur âme, que tu viennes la faire résonner en eux, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui, comme moi, ont cru en toi. Je te demande, Seigneur Jésus, viens nous donner de vivre une vie à la hauteur de cette révélation que tu nous as donnée de toi. Donne-nous de lire toutes les pages de la Bible en sachant que c'est notre Seigneur et notre Dieu qui nous parle, qui nous éclaire, qui nous encourage, qui nous donne des promesses, qui nous guide, qui nous dirige, qui nous inspire, qui nous commande d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Jésus. Amen.